Chapitre 27. De prédateurs, ils étaient devenus des proies, en un claquement de doigts. On ne les avait pas autorisés à rentrer chez eux. Les hommes de la police des polices les avaient même consignés dès que possible dans des bureaux différents, en attendant leurs auditions afin d'éviter toute concertation. Ça faisait plus de 7 heures qu'André Escrémieux était mort, après avoir ingurgité un poison d'une efficacité redoutable. Le jour allait se lever. Seul, Franck Charcot pensait à son équipe, et notamment à Florence. Avait-elle passé la nuit à l'hôpital? Comment allait Delphine Escrémieux? Il était épuisé, mais la tension nerveuse l'avait empêché de somnoler. Il allait devoir mentir à des inspecteurs de l'IGPN. Mentir à Suzanne, à ses parents. Se mentir à lui-même. Tout avait basculé si vite. Quand on était venu le chercher pour son audition, il avait senti un grand vide l'aspirer, comme une baisse de tension. Il se tenait désormais sur la chaise du suspect, de l'accusé, de l'opprimé, peu importait le terme que chacun choisissait. À un endroit où il n'aurait jamais dû se trouver, dans un bureau en tout point identique à celui du glaive, face à deux inspecteurs dont le rôle, disait-on ici, était de ruiner les carrières. Ceux qui avaient affaire à eux étaient souvent mis au placard, condamnés à avaler des plats bon marché comme le bœuf carotte, d'où le surnom donné aux membres de la police des polices. Les bœufs carottes. Franck sut immédiatement comment ses vis-à-vis s'étaient répartis les rôles du bon et du méchant. L'un, le plus grand et le plus âgé, il s'appelait Pierre Lenoir, lui proposa café et cigarettes. L'autre, Charles Cachan, la trentaine, lissait sa cravate de telle sorte que Charcot songea à la corde d'un échafaud. Un enfoiré aux dents longues, qui, pour démarrer l'audition, lui demanda de raconter en détail les raisons qui avaient poussé Thierry Brossard à décider d'intervenir dans la précipitation le soir même. « Ce n'était pas dans la précipitation, » répliqua Charcot. « Nous venions de retrouver leur fille en vie. Il était hors de question de les laisser dans l'ignorance. Nous avons jugé logique de profiter de l'occasion pour éclairer cette histoire de photo. » « À titre personnel, j'aurais sans doute fait comme vous, » dit Cachan. « Les débuts des enquêtes requièrent une certaine réactivité, on sait tous ça. Et vous étiez encore dans les clous. À quelle heure vous êtes arrivé chez les Escrémieux, d'ailleurs ?»«
Vers 20h50, 55. »«
5 minutes avant l'heure légale, ça tombait bien. » Vous vous souvenez de l'horaire exact, malgré l'enchaînement des événements d'hier? Je m'en souviens parce que je me suis fait la réflexion que, à quelques minutes près, on passait à côté. Je sors de l'école, j'ai toutes les procédures en tête. Cachan feuilleta un dossier. L'autre se taisait, il se contentait d'observer. Aucun d'entre eux ne prenait de notes, mais un magnétophone, bien en évidence, enregistrait tout. Vous êtes procédurier à un point tel que le mardi 10 décembre, peu avant 22h, vous enfreignez les usages et vous rendez seul dans les Yvelines à la place du groupe d'astreinte dirigé par Silvio Santucci. Les usages ne sont pas la loi, il me semble. Je ne suis pas encore au courant de toutes les traditions du 36. Un homme se tenait devant moi avec une photo pour le moins inquiétante, j'ai voulu vérifier et éviter de déranger l'astreinte. Je vois. Vous êtes nouveau, c'était une bonne occasion de vous faire remarquer. On peut dire que c'est réussi, rétorqua Charcot avec ironie. Et puisque vous sortez de l'école, vous savez ce que coûte une fausse déclaration devant deux inspecteurs dépositaires de l'autorité de l'État, n'est-ce pas? Plus que n'importe qui. Vous frappez à la porte des Escrémieux, donc, aux alentours de 20h50, 55. Que s'est-il passé ensuite? Charcot déroula les faits. L'annonce faite aux parents que leur fille était vivante, puis la volonté de l'équipe d'emmener le couple au 36 pour une audition libre. Le mari était alors monté pour s'habiller, et c'était sans doute à ce moment-là qu'il avait dissimulé le petit tube de poison sur lui. Son pull à col roulé était idéal pour ça, souligna Franck. Mon chef l'a fouillé en règle avant qu'il entre dans la 405 de fonction. Mais vous avez vu vous-même ce gros col en laine. À cet endroit, c'était indétectable. Et l'épouse? Elle est sous le choc, confuse, mais selon elle, il n'a jamais été question de fouille. Elle se trouvait à l'arrière de sa propre voiture avec moi. On devait prendre deux véhicules parce qu'on était 6. Je me souviens que Madame Escrémieux était dans tous ses états. Elle ne voit pas la fouille, mais vous, si. La 405 était de mon côté, du droit. J'ai clairement vu mon chef réaliser les gestes de palpation. En pleine nuit, à travers une vitre, avec près de vous, une femme dans un grand état de nervosité. Tout à fait. Dans de telles circonstances, comment pouvez-vous certifier que la fouille a été exécutée de manière rigoureuse? Parce que mon chef l'est rigoureux. Cachan serra les lèvres. Il parcourut le PV de l'audition entamé par le glaive, sans vraiment le lire. Son acolyte avait la position exacte de Titi quelques heures plus tôt. En Amazon, sur un angle du bureau. Il fouille le mari et pas la femme. Elle était habillée quand on est arrivé. On n'a jamais quitté des yeux. C'est même Serge Amandier qui lui a tendu son manteau et son écharpe. Je suppose que c'était un moyen astucieux d'effectuer une palpation rapide de ses effets personnels.
Un moyen astucieux. Un mince sourire se dessina sur la face de Poupon de Cachan. Un chieur de première. Franck sentait la lave bouillir dans son ventre, mais il se contint. Après tout, ces hommes ne faisaient que leur boulot, aussi sale fut-il. Et ils servaient la loi, eux aussi. Charcot se contenta donc de leur tenir tête, jusqu'à l'instant critique. « Vous êtes dernier de groupe, » reprit Cachan. « Quel était votre rôle dans cette audition ?»«
Écoutez, observez, je n'ai aucune compétence pour mener ce genre d'entretien. Je suis resté dans un coin derrière André Escrémieux, comme l'avait exigé mon chef. L'air de rien, ça créait une pression supplémentaire sur l'auditionné.
« Montrez-nous où celui-ci était placé. »
Charcot pointa le radiateur.
« Juste là, collé au chauffage. On voulait qu'il grimpe en température, car la chaleur met toujours mal à l'aise et peut aider à obtenir des aveux. Enfin, vous savez ça, puisque j'ai l'impression d'être dans un sauna ici. »
Perspicace. Il a résisté longtemps, mais il a fini par retirer son pull. Il l'a posé sur ses genoux d'une façon bien particulière. Je me souviens de ça parce que son geste était étrangement appliqué. Il aurait pu enlever son col roulé dès le début, il crevait de chaud. Pourtant, c'est à ce moment-là seulement qu'il l'a fait. Je crois qu'il avait compris qu'il n'avait plus d'échappatoire.
Pourquoi il aurait attendu d'être dans vos locaux pour mettre fin à ses jours? Pourquoi pas chez lui lorsqu'il est monté s'habiller? Je suppose qu'il avait encore l'espoir de s'en tirer.
Un éclat brillait dans l'œil du plus âgé, le noir. Cachan demanda à Charcot de situer chacun des protagonistes dans la pièce, puis de décrire le plus précisément possible les instants qui avaient précédé et suivi le drame. Charcot était épuisé, mais il obtempéra. Serge Amandi a frappé à la porte. Il a ouvert et a fait signe à mon chef de sortir car il avait une information à lui communiquer. Une fois la porte refermée, André Escrémieux s'est muré dans le silence pendant peut-être une minute. Franck se passa une main sur le front et en chassa les gouttes de sueur qui y perlaient.
Moi, je n'ai pas bougé. Escrémieux s'est alors adressé à moi. Il souhaitait que je lui redonne les photos des enfants qui étaient sur le bureau.
Montrez-nous. André Escrémieux était assis là, sur cette chaise.
Charcot acquiesça. Il se leva et s'approcha du bureau, dressé face à Cachan.
Je l'ai lâché des yeux une poignée de secondes. Notre procédurier, Alain Glichard, était concentré sur son PV à votre place, et je lui bouchais la vue, comme je vous empêche de voir la chaise derrière moi en ce moment.
Cachan se décala un peu, comme pour mieux appréhender la scène.
Ensuite?
C'est un peu confus, tout est allé tellement vite. Faites de votre mieux.
Franck pivota d'un quart de tour.
Quand je me suis retourné, il avait un tube entre les mains. Je me suis précipité pour le lui arracher, mais c'était trop tard. Il avait déjà avalé son contenu. Il s'est tordu en deux de douleur, puis il est tombé et a convulsé. On a tout fait pour le sauver avant l'arrivée des secours. Glichard a essayé de le faire vomir en lui glissant les doigts dans la bouche, mais il a été mordu. Je crois que mon chef est entré après ça. Puis d'autres. En réalité, je sais plus très bien. La fatigue rend mes souvenirs un peu flous.
Cachan poussa un soupir.
La fatigue... Vous auriez en effet pu prendre le temps de dormir et procéder à l'audition ce matin, au calme. Mais vous avez choisi la fatigue, inspecteur Charcot. Alors maintenant, il faut assumer. Je n'ai rien choisi du tout. Un citoyen, un père, est mort sous votre responsabilité d'homme de loi, la vôtre ou celle de votre chef, que tout naturellement vous cherchez à couvrir. Alors faites un effort. Rappelez-vous. Je ne cherche à couvrir personne. Ce que je vous raconte est la stricte vérité. Et quand je vous dis que je me souviens plus, c'est que je ne me souviens plus. Ça peut se comprendre, non, vu les circonstances.
Il y eut un long silence. Puis Pierre Lenoir, muet depuis le début, stoppa le magnétophone d'un geste autoritaire qui sembla clouer le bec à son collègue.
« C'est fini, inspecteur Charcot. Vous pouvez disposer. »
Franck fut surpris par cette brusque interruption de l'entretien et l'ascendant soudain de Lenoir sur Cachan. Il vit l'air soumis de ce dernier et saisit alors que le trentenaire sortait du même moule que lui. Il n'était que de la chair fraîche en train d'apprendre le métier.
Charcot ne savait pas s'il devait se sentir soulagé ou non. Il se posta devant la porte, se retourna avant de partir.
« Est-ce qu'on va pouvoir continuer notre enquête ?»«
Nous sommes dans le même camp, inspecteur Charcot, » répliqua le noir en rangeant la cassette à côté d'autres dans une boîte. « Quoi que vous pensiez, nous punissons les méchants et il est important que vous attrapiez les responsables. Donc oui, vous allez poursuivre votre enquête, mais pour Thierry Brossard, c'est terminé. »«
Non, vous ne pouvez... »«
Si, inspecteur, nous pouvons. Nous le devons même. » Il y a eu mort d'homme au sein des locaux de la police judiciaire et il faut un fusible. Sinon, c'est tout le système qui s'effondre.
Charcot serra les poings jusqu'à s'en faire blanchir les jointures.
Cachan lui adressa un sourire de hyène qui lui donna envie de lui fourrer sa main dans la figure.
Le noir s'approcha et ouvrit la porte lui-même, tout en concluant.
À partir de maintenant, c'est Silvio Santucci qui va vous diriger. Il a été le premier à se mettre sur les rangs quand il a eu vent du fiasco de cette nuit. C'est à croire que l'affaire que vous lui avez copieusement volée devait lui revenir.
Bon courage pour la suite, inspecteur. Si tout se passe bien, vous n'entendrez plus parler de nous. Enfin, je vous le souhaite.